canard dans les caisses du patronat.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Flora Bernard, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Éric Morin et Michel Bézikian.
Et au programme cette semaine, après la Macronmania, déjà le retour au réel.
C'est troublant ce moment quand même, parce que je pense qu'on ne l'a jamais vécu à ce point-là quand même, ce niveau de dépolitisation.
Alors oui, la France n'a plus un président, mais un président directeur général. C'est un PDG que nous avons à la tête de notre pays.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que le sacre lundi dernier de notre nouveau président marque un véritable tournant dans notre histoire politique. Non pas tant quant à la pipolisation du couple présidentiel, ça nous y sommes habitués, mais plutôt, comme vient de le rappeler Samuel Gontier, journaliste à Télérama, quant au niveau de dépolitisation totale des propos des commentateurs. L'investiture la plus romanesque de la Ve République. On est dans le roman, et même, osons le mot, dans l'épopée, s'enflammait France 2. Les envolées lyriques abondent et se succède jusqu'au ridicule. Voilà donc pourquoi Guy Vanctil est allé à la rencontre de Samuel Gontier, fin connaisseur du petit écran, pour revenir avec lui sur ce grand moment de vide tellement parlant. Car c'est dans la rue qu'il fallait être pour sortir de la belle histoire, pour que le politique reprenne ses droits. Dès le 8 mai, avec le troisième tour social, ou cet après-midi même, place Stalingrad pour préparer les 1826 jours de résistance. Maintenant que le jour de gloire est passé, place donc aux doléances, avec Antoine Chao qui revient, lui, au réel, aux luttes et aux colères qui attendent le nouveau gouvernement. Comme un bruit qui court, Macromania et doléances, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Ferry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
Un homme va arriver à l'Élysée pour prendre ses fonctions.
Il marche vite et il court même, regardez.
Il a réussi à allier solennité et proximité avec la foule venue le voir, notamment sur les Champs-Élysées.
Ce dimanche que nous vivons ensemble depuis tôt ce matin.
Bonjour Madame Macron. Une interview pour France 2, Madame Macron. Non, elle passe son chemin, bien évidemment.
Ces instants républicains, cette parenthèse de la vie politique qui reprendra ses droits, on l'a compris, très vite, dès demain.
Et on vous retrouve dans quelques instants, juste dans le convoi.
Charlotte vous l'a dit, les cérémonies officielles qui se sont succédées depuis une semaine ont donné lieu à des heures d'émissions spéciales où toutes les chaînes ou presque se sont mises à l'info en continu jusqu'à la surdose de storytelling médiatique. Alors comme un bruit qui court a pris rendez-vous avec Samuel Gontier de Télérama, auteur du livre Ma vie au poste à la découverte et spécialiste de l'enquête immobile sur la télé du quotidien pour une petite séance de désintoxication après cette semaine d'euphorie collective. Un de ces moments où la télé est comme en lévitation à force de superlatif et un instantané pour observer les relations de notre grille cathodique avec le pouvoir politique. Surtout quand un nouveau président a subtilisé aux journalistes leur profession de foi, ni de droite ni de gauche, juste les faits. Résultat, les télés ont été fidèles au poste. Et c'est sans doute M. Gattaz du MEDEF qui a eu le dernier mot de cette drôle de journée. Nous sommes sur un nuage. Alors voilà pourquoi nous sommes allés regarder la télé avec Samuel Gontier.
Qui est Emmanuel Macron? Jusqu'où ira-t-il? Quelle sera l'issue de son aventure politique inédite? Quel président sera-t-il? Eh bien, les premiers éléments de réponse vont se dessiner sous nos yeux avec ce jour 1 de son quinquennat qui va s'ouvrir dans quelques instants.
Bonjour Samuel Gontier, je vous retrouve à vos locaux de Télérama.
Bonjour.
Parce qu'on avait besoin de vos lumières, vous qui depuis, ça fait bientôt 10 ans que vous scrutez quotidiennement pendant des heures la télévision, fidèle au poste.
Oui voilà, et la télévision un petit peu du tout venant, la télévision du quotidien, des programmes de flux.
Et alors là, on a été gâtés, enfin je sais pas s'il faut dire on a été gâtés, là j'ai compris l'ampleur de votre tâche, puisque depuis une semaine, nous voici dans un moment très particulier d'euphorie médiatique, avec consécutivement la passation de pouvoir d'Emmanuel Macron, puis le lendemain, le suspense du Premier ministre, puis 2 jours après, le mercredi, les ministres. Et pendant des heures et des heures, on a entendu la télévision qui racontait l'histoire et qui racontait ça comme un roman.
Mon boulot en général, c'est de regarder ce que mes collègues ne regardent pas, qui sont là plutôt pour recommander des bons programmes à nos lecteurs. Et moi, donc, du coup, je regarde un petit peu tout ce qui passe à côté.
Le tout venant, comme voilà, vous dites.
Le tout venant, la télé du quotidien, forcément les infos, les chaînes infos, les JT, les talk shows, les divertissements, les jeux, etc. Et depuis une semaine, et même depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est une totale unanimité des commentateurs. Et donc, Brice Teinturier disait qu'il ressemblait à Moïse, parce qu'il s'inscrivait en faux contre quelqu'un qui disait au contraire qu'il était plutôt christique, ce qui revient souvent aussi. Voilà. Et donc, on est parti comme ça à le comparer à des personnages historiques, mais alors vraiment de toutes sortes. Ça allait du plus simple, c'est-à-dire François Hollande, en remontant jusqu'à Giscard, en passant par Chirac, en passant par Mitterrand, bien sûr. On est remonté jusqu'à Napoléon, Napoléon III, et puis Bonaparte, et puis Jeanne d'Arc, et puis qui encore, donc Moïse, le Christ. Tout le monde y est passé quasiment.
Ça fait beaucoup pour un seul homme quand même.
Mais oui, mais quel homme. Quel homme.
Jeanne d'Arc, De Gaulle, Clémenceau, Foch, ouais. On a effectivement un panthéon, un référentiel qui parle aux Français.
Pour avec le Napoléon.
Parce que de la jeunesse et de la prise de pouvoir.
Exactement.
Voilà, parce que là, quand même, ce que vous avez pointé, c'est vraiment une espèce d'euphorie collective qui a touché tous ces médias d'un commun accord.
Oui, oui, c'est assez fascinant. Je me demande justement si ce n'est pas la fascination, tout simplement la fascination pour le pouvoir, pour les ors du pouvoir, parce que c'est très protocolaire, très officiel, là, cette cérémonie de passation de pouvoir. Ou alors une sorte de fan club, effectivement, des groupies. Enfin, parce qu'ils en font trop, quoi, parce qu'on n'en peut plus, on peut plus au bout d'un moment de... Ce qui a changé aussi, je pense, quand même, c'est l'arrivée des chaînes infos, et puis aussi des réseaux sociaux qui participent à l'information en continu. Et donc, l'ampleur qu'a compris ces médias, à la fois les chaînes infos et les réseaux sociaux, crée un peu une course à l'échalote. Et j'ai l'impression que tous les médias, y compris TF1 ou France 2, qui normalement ne sont pas dans ce rythme-là, s'y mettent aussi.
Ce matin, depuis 8h45, nous sommes à l'antenne sur France 2 pour vous faire vivre ce moment, cette passation de pouvoir.
C'est comme ça que Delahousse arrive à faire 10 heures d'antenne, 10 heures de direct d'affilée le dimanche de l'investiture d'Emmanuel Macron.
Une affaire de minutes qu'on va suivre tranquillement sur France 2. Merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez sur France 2.
Et voilà, et France 2, au départ, c'est quand même pas une chaîne d'infos en continu. Et voilà, là, ils font comme s'ils étaient BFM TV, mais avec peut-être encore moins d'expérience et moins d'habitude. Donc du coup, ça devient encore plus ridicule que BFM TV.
Je vois des essuie-glaces qui commencent à s'agiter. Est-ce le début de cette présidence sous pluie? Voilà ces images que l'on voit. Paris, le 7e arrondissement, cette voiture d'Emmanuel Macron qui prend actuellement la direction du Palais de l'Élysée. Moment intense, on l'imagine. Guillaume Daret, vous êtes dans le convoi et faites attention à vous.
Absolument, Laurent, écoutez, Emmanuel Macron qui a ouvert la fenêtre de sa voiture et qui salue les quelques passants qui se trouvent...
Un exemple de ce ridicule, c'est justement dans le début de cette journée, c'est un mot que vous utilisez souvent, qui est celui du motojournalisme, et qui fait référence directe à... C'était Benoît Duquesne qui avait lancé la mode au moment de l'élection de Chirac, où il l'avait poursuivi en scooter le soir de son élection. Mais là, maintenant, c'est devenu un genre, le journaliste en scooter qui roule derrière le président élu.
Ce qui est paradoxal, là encore, c'est que cette invention, si on peut dire, de Benoît Duquesne en 1995 avec Jacques Chirac, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde lui a dit « mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que fait la télé, quoi ? Qu'est-ce que devient la télé ?» Et en fait, alors que c'était plutôt condamné, tout le monde s'est mis à le faire et c'est devenu effectivement un passage obligé, y compris par exemple en 2012, quand François Hollande a été élu, on a suivi, alors là c'était même pas dans les rues de Paris, on a carrément suivi sa voiture qui allait de son domicile en Corrèze jusqu'à l'aéroport de Brive ou de Tulle, je ne sais plus, pour ensuite l'avion qui partait pour Paris, et ensuite de Paris on l'a suivi, enfin de l'aéroport de Paris on l'a suivi jusqu'à son domicile parisien, enfin ça n'en finissait pas, parce que là il y avait encore plus d'étapes. Et voilà. Et là, c'est pareil, on s'y est remis avec Emmanuel Macron.
Et le convoi qui se met en mouvement, ça y est, avec Emmanuel Macron. On va donc suivre ces images en direct.
Julien Beaumont, est-ce que vous êtes dans ce cortège, ou pas loin, j'imagine, sur votre moto?
Alors oui, je suis tout à côté de la voiture d'Emmanuel Macron. Voilà, il vient de partir. Alors vous voyez, le cortège vient de partir à l'instant. Comme vous pouvez constater, voilà, Emmanuel Macron qui veut absolument saluer les personnes qui sont avec sur le côté pour l'attendre. Il est, je vous l'avais constaté, à la fenêtre, hein, avec sa fenêtre ouverte.
Et vous entendez, voilà, le bras d'Emmanuel Macron à la fenêtre pour saluer ces Français venus l'apercevoir.
Et voilà, la voiture et la main d'Emmanuel Macron. La fenêtre a été ouverte cette fois, contrairement à d'autres occasions. Emmanuel Macron qui tient à saluer cette foule. Et qui s'imprègne donc de cette nouvelle fonction qui va être la sienne d'ici maintenant quelques minutes.
Guillaume Daret, juste une image, on va commenter cette image, priorité à l'image, qui est Guillaume Daret qui suit ce convoi. On se rapproche du palais de l'Elysée, on vient de passer le pont Alexandre III où on est encore un petit peu dessus. Et Guillaume, vous suivez ce convoi, on voit ces images magnifiques.
Et voilà, comment vous dites, ces journalistes très compétents par ailleurs de télévision se retrouvent à faire de la radio avec des images en plus, quoi. À décrire comme nous on décrit à la radio, sauf que là c'est redondant et de platitude puisqu'on voit ce qu'ils sont en train de décrire.
Oui, et du coup, que ce soit dans ces directs à moto ou même dans ces directs postés devant les trottoirs des ministères, du coup les journalistes en sont réduits à décrire, à raconter leur propre activité. Parce qu'ils ne, voilà, ils n'ont accès à rien, les portes sont fermées, les ministres ne s'expriment pas, voilà. Et du coup, ils parlent de ce qui se passe entre eux, voilà. Des motards de la police arrivent, ça crée une effervescence, mais parmi qui? Parmi les journalistes, en fait.
Oui, je vois les essuie-glaces qui bougent, vous relevez cette marque.
Oui, voilà. La journaliste qui dit, la rue va être bloquée, mais bloquée par quoi? Parce qu'il y a les journalistes qui bloquent la rue, en fait. Donc la police est obligée de bloquer la rue parce qu'ils sont tous amassés, ils débordent du trottoir devant le domicile d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, ils racontent leur propre activité.
Écoutez, Florent, il y a déjà beaucoup d'activités ici. Regardez, ça grouille. Alors, tenez, en parlant de journalistes, je voulais vous montrer cette image. Regardez le nombre de camions satellites qu'il y a autour de l'Elysée ce matin. J'en ai compté une douzaine. Même si la passation va intervenir dans quelques heures, il y a déjà un énorme dispositif de sécurité ici. Vous voyez d'ailleurs Mathieu Coache qui est en train de se préparer pour son prochain duplex.
Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. C'est Bonaparte, à 22 ans, qui a prononcé cette phrase. Deux siècles plus tard, Macron l'a fait résonner. Sa trajectoire fulgurante l'a fait passer en 3 ans du quasi-anonymat à la présidence de la République. Personne ne le connaît vraiment. Et pourtant, personne ne le connaît vraiment.
Alors ça, Samuel Gontier, c'est un extrait de ce documentaire qui s'appelle « Ainsi soit Macron ». C'est d'ailleurs le titre que vous reprenez pour une de vos chroniques. Et là, on a tout. Là, c'est vraiment plaqué or et piédestal fourni.
Et oui, là, on entend le passage en plus tout au début du film où Emmanuel Macron est comparé à Kennedy en disant que c'était le Kennedy français et en le montrant avec sa famille. Et comme Kennedy, il montre sa famille heureuse. Alors, on se dit déjà, c'est pas forcément un très bon présage parce que Kennedy, il est quand même mort assez jeune. Sa famille, je pense qu'il y avait quelques tiraillements au sein de sa famille quand même. Et puis, hop, on passe tout de suite à Bonaparte. Et là, on sait plus où on est. Entre Bonaparte et Kennedy, quand même, il me semble que c'est pas tout à fait le même univers. Il y en a un qui est plutôt démocrate, qui est quand même plutôt un empereur. Alors, où se situe Emmanuel Macron là-dedans? Il est à la fois Jeanne d'Arc et effectivement Emmanuel Bonaparte. Il est un peu tout à la fois.
Certains l'appellent déjà le Kennedy français. Emmanuel Macron, nouvelle étoile politique. Il a 39 ans, John Fitzgerald en avait 43. Et comme le légendaire président américain en son temps, Emmanuel Macron, filmé ici chez lui au Touquet le jour de Pâques, dévoile à ses concitoyens une famille heureuse. Son épouse Brigitte, les 3 enfants de cette dernière, les 7 petits-enfants.
C'est quoi ça ? Ce qu'on retient de tout ça, c'est que c'était un beau spectacle avec des belles personnes, je ne sais pas. L'impression de vivre l'histoire en direct, parce que ce que nous répètent les présentateurs, les commentateurs.
Fabrice, je pense que voilà, oui. le véhicule dans lequel se trouve Brigitte Macron, on va vérifier ça tout de suite.
Cette image en direct dans la cour de l'Elysée, qui est effectivement l'arrivée de Brigitte Macron.
Ça, c'est que c'est un peu le côté Butler aussi.
Voilà, c'est la passation de pouvoir, c'est l'histoire qui se produit en direct, l'histoire que nous allons vous offrir de vivre en direct.
On voit donc Brigitte Macron arriver.
Et c'est tout, justement, ça s'arrête là. On vit l'histoire en direct, mais sans aucun recul.
Ce qu'on mesure pas bien, écoutez, les gens, ils crient Brigitte. Brigitte, c'est une star, hein, maintenant. C'est Bibi. Emmanuel Macron la surnomme Bibi, elle l'appelle chérie. Tout le monde veut son selfie avec Brigitte.
Qui prend le temps de saluer.
Qui prend le temps de saluer.
Ouais. Qui les embrasse même de la main.
Et voilà comment on se retrouve à décrire des scènes comme celle de l'arrivée de Brigitte Macron, qui est la première à arriver dans tout ce dispositif. Voilà bientôt presque 2 heures que les journalistes sont en train de parler et à insister sur l'importance de cette journée historique. Et voilà que quelque chose se passe. Brigitte Macron arrive.
Oui, absolument. Madame Macron qui arrive avec un tailleur bleu clair, très souriante. Bonjour Madame Macron. Une interview pour France 2, Madame Macron? Non, elle passe son chemin, bien évidemment.
Nous avons donc pour Brigitte Macron une robe bleu lavande, d'une veste double boutonnage, ainsi qu'un sac Vuitton.
Crée une jupe assez courte par rapport au protocole.
Oui.
Donc elle est habillée en Louis Vuitton et elle porte un sac capucine. qu'on rebaptiserait le sac Brigitte. Et que ce sac qu'elle a dans tous les modèles, il serait question qu'on le rebaptise le sac Brigitte, comme il y a le sac Kelly, en hommage aussi à Grace Kelly.
Et là aussi, ça, apparemment, je pense que c'est une tradition républicaine, sûrement, c'est de commenter la tenue de la Première Dame. C'est-à-dire que c'était arrivé, je me souviens, pour Valérie Trier-Valeur, il y a 5 ans. Et là, voilà, la première chose que l'on fait quand Brigitte Macron arrive, c'est de détailler sa tenue, d'expliquer de quel couturier elle vient, d'où vient son sac, que le sac va bientôt porter son nom.
Et puis, il y a d'ailleurs Vuitton qu'on insiste bien à plusieurs reprises. Les communicants nous ont dit de dire que c'était prêté.
Voilà, et que c'était LVMH, que le patron c'est Bernard Arnault, avec qui Emmanuel Macron a dîné lorsqu'il était ministre de l'économie ou secrétaire général de Génisée, peu importe. Et voilà, ils se sont liés d'amitié et du coup Bernard Arnault a proposé à Brigitte Macron de l'habiller à cette occasion. Voilà, on saura tout. Ouais. Et pour le coup, là, on apprend. Ça, c'est une anecdote qui se veut people, qui entend parler de la mode, mais du coup, c'est là. Tout d'un coup, on entend parler un peu de politique derrière. On entend parler de Bernard Arnault et éventuellement de la collusion ou de l'amitié, en tout cas, entre Emmanuel Macron et les grands patrons français. Mais ça vient par hasard et ce n'est pas du tout le sujet du débat.
Oui, la question sur Brigitte Macron, c'est que va-t-elle faire à l'Élysée ? Quel sera son rôle en tant que première dame ? On a entendu le président de la République en campagne, quand il était en campagne, dire qu'elle ne serait pas cachée, qu'elle aurait un statut. Elle disait, les premières dames ont été discrètes, donc elle est aujourd'hui dans une démarche, une volonté de s'effacer quelques temps derrière l'installation de son mari à la présidence de la République.
Alors, elle l'envisage, c'est vrai, comme une première dame plus classique, retour aux fondamentaux. Elle a un modèle dont elle parle souvent, c'est Carla Bruni, qu'elle a appelé Carla Bruni Sarkozy pour obtenir quelques conseils.
Beaucoup la comparent, en fait, à Claude Pompidou. Le côté bourgeoisie, province, marié à un ex-banquier d'affaires. Beaucoup la comparent à Claude Pompidou et beaucoup, aujourd'hui, souhaiteraient qu'elle ait un rôle à la Michelle Obama.
Oui, et tout de suite, on embraye sur le rôle, quel doit être le rôle d'une première dame. Et tout de suite, on déplore que depuis deux quinquennats, il n'y ait pas eu vraiment de première dame bien fixe, bien, parce que voilà, ça a pas mal tangué du côté de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et donc là, on se félicite qu'il y ait enfin une vraie première dame, apparemment une femme à poigne, qui va remettre de l'ordre dans la maison parce que la maison était mal tenue, paraît-il. Voilà, donc c'est la maîtresse de maison qui arrive. Donc on en parle sous l'angle de la mode. Donc,
voilà, la gravure de mode.
La gravure de mode. Et
un
la
peu Barbie.
Et la maîtresse de maison. Et la seule qui soit capable de raisonner Macron, donc, dont elle est du coup un peu la maman aussi. Voilà. Ouais. Donc tous les clichés, tous les stéréotypes sexistes sont réunis voilà, en quelques minutes. Tout en disant que surtout quand même c'est scandaleux ces gens qui se moquent de la différence d'âge entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. C'est quand même, voilà, c'est du sexisme.
Je trouve ça assez émouvant de voir Brigitte Macron parce que quand on a affronté ça, soit on en sort détruit, soit plus fort que n'importe qui, et c'est leur cas.
Et on entend votre message, cette émotion, forcément, chez cette femme qui a vécu, probablement, comme vous le disiez, l'opprobre, les critiques qui, parfois, que l'on entend déjà encore, malheureusement, aujourd'hui.
Son fils est plus âgé qu'Emmanuel Macron. Vous imaginez, vous, vos enfants ?
Elle a été au frais de cet homme toutes ces années.
Je crois, Laurent, qu'on assiste à l'investiture la plus romanesque de la Ve République. On a tout eu. On a eu la plus hypocrite, la plus tendue, la plus classique. Aujourd'hui, on assiste à la plus romanesque.
Il faut voir ses yeux quand elle regarde. Des yeux comme ça, ça vous rend président.
Dans les yeux quand elle le regarde.
La grille du Palais d'Élysée qui est en train de s'ouvrir.
C'est qu'il y a des chances que dans quelques secondes, on descende François Hollande et Emmanuel Macron.
Voilà, les deux hommes qui descendent cet escalier.
Et vous voyez, ça y est, les deux présidents, François Hollande et Emmanuel Macron, qui sont en train de descendre ces marches. Et on va vous laisser profiter de l'ambiance au cœur de l'Élysée.
François Hollande qui le descend donc pour la dernière fois en tant que président de la République. Les deux hommes qui descendent donc effectivement et ces applaudissements pour saluer le départ de François Hollande.
À quel moment vous avez zappé plutôt sur BFM ou plus ou sur France Télévisions ? Quand ils deviennent vraiment trop pompeux ou trop
Ah non, au contraire, j'attends qu'ils finissent par... C'est mon côté un peu pervers. Mais j'attends qu'ils finissent par, à force de radoter, par dire les plus énormes conneries possibles. Et puis, en plateau, toute une palanquée d'experts, d'éditorialistes. Et là, c'est entre eux qui, voilà, qu'ils se bourrent le mouche à dire, et voilà, qu'ils s'entraînent les uns les autres, qu'ils se reprennent les uns les autres, et qui, voilà, qu'ils sont dans un peu la course à l'échalote, eux aussi, et finissent par dire de grosses bêtises. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a une personnalité politique qui parle, je zappe. Ouais. Parce que mon rôle n'est pas forcément de commenter les opinions politiques. Mon boulot, c'est plutôt de voir comment les médias traitent de ce discours politique et cette actualité politique.
Voilà, quelque chose se passe. Tout d'un coup, Emmanuel Macron sautille ou monte les marches 4 à 4. Et tout de suite, voilà, la machine à commenter, la machine à interpréter part en vrille.
Puis, voilà, et puis, effectivement, Emmanuel Macron sort et ensuite accompagne... François Hollande, et ensuite il monte les escaliers 4 à 4.
Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous me disiez.
On vient de voir Maryse, un président qui courait, qui remontait l'escalier avec précipitation.
Il remonte précipitamment au bureau.
Un président en marche qui déjà, dès la première minute à l'Élysée, est en train de courir.
Monter 4 à 4.
Et là il est remonté.
C'est pareil, ce qui est délirant, c'est vraiment la permanence, parce que moi je me souviens exactement de la même journée en 2012, en mai 2012. Et alors il y avait eu exactement la même scène. François Hollande avait monté les escaliers, alors peut-être pas 4 à 4, disons 3 à 3, de manière très vive en tout cas, et tous les commentateurs s'étaient extasiés devant cet exploit physique en disant qu'est-ce qu'il montre, qu'il est jeune, qu'il a envie d'y aller, qu'il veut réformer la France. Et là, exactement pareil, ça recommence, c'est parti.
On voit une bonne foulée dans les marches. Ouais, l'énergie et le dynamisme sont au rendez-vous. Hein. Quand on a proprement, on est en pleine forme, en effet.
Il a vraiment monté les marches 4 à 4 avec vitesse incroyable.
Ça devient le fait de la journée. Le lendemain, c'est repris dans les émissions et c'est devenu. L'information capitale de cette journée de passation de pouvoir, c'est que Emmanuel Macron monte les escaliers 4 à 4. Et en plus, on se demande où il est passé à ce moment-là. Donc
Emmanuel Macron qui est remonté précipitamment, que s'est-il passé? Où est-il? C'est le premier mystère de ce quinquennat.
Voilà, donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Notre nouveau président a été pris en otage, à peine intronisé. Et puis là, il y a un tweet qui arrive.
Un tweet de Roselyne Bachelot.
Un tweet de Roselyne Bachelot, voilà, qui connaît bien le sujet, qui nous dit qu'en fait, il y a des toilettes à mi-étage de cet escalier. Donc peut-être, en fait, Macron a grimpé très vite les escaliers parce qu'il avait très envie de faire pipi, en fait.
Mais c'est une info.
Voilà, mais c'est une info.
Et les dizaines de journalistes qui sont étaient là devaient nous la rapporter.
Il t'apprête à redescendre.
Ah ben, Emmanuel mais... Macron qui descend à niveau.
Le président Sarkozy.
Voilà Emmanuel Macron qui revient et qui va prendre la direction auprès de son épouse de la salle des fêtes de l'Élysée où une autre séquence est en train de s'ouvrir. Séquence d'investiture qui va s'ouvrir dans cette salle des fêtes de l'Élysée.
Voilà, beaucoup de gravité toujours sur le visage d'Emmanuel Macron, qui même lorsqu'il sourit, ne veut pas donner une impression de légèreté.
Je sais que les Françaises et les Français, en cette heure, attendent beaucoup de moi. En ce qui me concerne, dès ce soir, je serai au travail. Vive la République, vive la France.
Voilà pour ces premiers applaudissements de ce premier discours du président de la République, premier discours dans lequel on retiendra beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Il a pris les habits du président de la République.
Après ça, vient toute la grande cérémonie officielle et protocolaire et ces surannées pendant lesquelles les commentateurs sont toujours obligés de commenter. Et voilà que subrepticement apparaît, par exemple, M. Gattaz.
Tout à l'heure, on voit arriver Pierre Gattaz, le président du MEDEF.
Et voilà des personnages, des acteurs de cette scène politique dont vous montrez à quel point elle est occultée et qui, lui, apparemment, je vous fais écouter, était sur un petit nuage.
Pour l'instant, nous sommes sur un nuage. Pour l'instant, Emmanuel Macron fait un sans-faute. Je crois qu'il est très apprécié de l'international. Ça donne une belle image de la France, de renouveau pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents.
Voilà, le téléspectateur a bien été attendri, radouci pendant des heures de storytelling et des heures de love story et de moments magiques. Peut-être que derrière, il y a un message, un programme qui se présage, qui se présente, et peut-être que M. Gattaz en est un des véhicules.
Ah bah sûrement pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ce qui s'est dit, ce qui s'est vu lors de la cérémonie de passation de pouvoir. puisque effectivement Pierre Gattaz était là, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'accolade à Pierre Gattaz était très courte.
Je sais pas si c'est fait exprès, mais à l'instant, il a une poignée de main rapide pour Pierre Gattaz, par exemple, alors qu'il s'est arrêté à d'autres moments bien plus longuement.
Donc c'était un signe sûrement que, en fonction de la longueur de l'accolade, on voit les signes de proximité politique. Apparemment, c'est la grille de lecture de ce genre de moment de remerciement après le discours d'investiture.
Ça fait penser, je vous coupe deux secondes, Samuel Gontier, ça fait penser un peu à l'époque où il y avait des kremlinologues qui parlaient des accolades entre Jaruzelski et ainsi de suite.
Voilà, exactement, c'est à ça que ça me faisait penser aussi.
Tout le monde a disséqué ces images. Avec qui s'est-il arrêté? Qui a-t-il salué très chaleureusement? Avec qui n'a-t-il que peu discuté et salué cordialement sans plus?
On a bien vu là un peu la scène de courtisanerie qui s'est mise en place. On a bien vu comment il adoube avec la main un peu plus loin, l'oreille, pas l'oreille.
Et là, donc, apparemment, Emmanuel Macron a passé très peu de temps avec Pierre Gattaz. Donc, a priori, c'est plutôt un ennemi d'Emmanuel Macron, Pierre Gattaz, je pense. Ouais. Le MEDEF est l'ennemi d'Emmanuel Macron.
Ah non, pas douter. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à l'écouter pour voir.
Il veut réformer le marché du travail, il veut baisser la fiscalité, il veut libérer des talents, il veut jouer l'économie. Eh bien, je crois que ce sont pas des valeurs de gauche ou de droite.
Gérard Collomb, c'est pareil. Voilà. Ce qui a surtout frappé les commentateurs, c'est son émotion le jour de la passation de pouvoir et comment il a presque pleuré dans les bras d'Emmanuel Macron.
Le maire de Lyon qui est au bord des larmes.
Il est extrêmement ému, Gérard Collomb.
Ils échangent longs mots.
Très ému, Gérard Collomb, regardez.
Voilà. Et voilà, du coup, les commentateurs eux-mêmes ont été bouleversés. Apparemment, ils ont été bouleversés par les larmes de Gérard Collomb. Et là, du coup, on voit bien aussi comment, effectivement, dans le storytelling, et dans la personnalisation, et dans l'identification, voilà, dans l'empathie, on cherche à provoquer l'empathie pour les héros de ce feuilleton. En fait. Voilà, c'est aussi en ça que ça devient, du coup, très complaisant.
Et c'est comme ça qu'on oublie le programme qui va arriver. Et heureusement, il y a des gens comme Christophe Barbier, l'éditorialiste à l'écharpe rouge, qui, sur BFM, attend avec impatience le troisième tour social.
Ah, j'ai pas entendu ça, je l'ai raté.
C'est une chance, le troisième tour social, pour un gouvernement et un président comme Macron. C'est une épreuve du feu indispensable. Ça ne se fera pas sans barricade, ça ne se fera pas sans dégâts. Il faut qu'avec l'aide de la CFDT réformiste, il brise complètement l'obstruction syndicale CGT-FO.
Bah, c'est toujours le discours qui revient aussi, c'est voilà, ce gouvernement, enfin ce président, ce premier ministre, ce gouvernement sont merveilleux, mais maintenant, seront-ils vraiment aussi forts? Donc c'est là qu'on les attend, effectivement, c'est est-ce qu'ils sauront mater les syndicats? S'ils réussissaient à mater la CGT, ce serait merveilleux.
Et c'est là où le fait d'occulter le programme politique est proprement politique.
Ah oui, parce que du coup, on fabrique l'adhésion, le consentement à un pouvoir en fonction d'une idéologie, d'un programme tout à fait politique. Emmanuel Macron va faire de la politique, je pense, à l'Élysée, a priori. Et là, on l'a un peu oublié. Voilà, on est parti dans les belles histoires et c'est troublant ce moment quand même. Parce que je pense qu'on ne l'a jamais vécu à ce point-là quand même, à ce niveau de dépolitisation.
Et donc c'est vrai que c'était un moment émouvant. Il y a des moments émouvants dans ce genre de cérémonie. Et c'est vrai que l'image de Gérard Collomb bouleversé au bord des larmes était assez touchante. Parce que ce qu'a vécu Emmanuel Macron et ce qu'il a fait vivre à tout le pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est une aventure humaine extraordinaire, une aventure romanesque comme la politique sait en produire parfois.
Depuis une semaine et même depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est une totale unanimité des commentateurs. Sans doute parce que ce président, ce premier ministre et ce gouvernement ne sont ni de droite ni de gauche. Et comme chacun sait, les éditorialistes politiques se doivent d'être neutres aussi, ni de droite ni de gauche, de la même manière que le gouvernement. Du coup, je sais pas, sûrement est-ce qu'il doit y avoir une convergence de ni de droite ni de gauche entre les éditorialistes et les commentateurs.
Ça, oui, vous dites, ouais, Emmanuel Macron a piqué la position des journalistes fair and balanced, comme ceux de Fox News, c'est-à-dire ne pas prendre parti. Donc eux, ils se retrouvent dans cette image-là déjà.
Oui, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne. Par exemple, pour la nouvelle nomination du gouvernement, je n'ai pendant des heures et des heures de direct sur France 5, sur BFM, je n'ai pas vu un seul opposant au gouvernement. Il a fallu attendre 22h30 pour que BFM TV trouve une opposante, en l'occurrence la rédactrice en chef du service politique de l'Humanité, qu'on ne voit jamais sur les chaînes info. Mais enfin, voilà, ils se sont rendus compte que c'était un peu trop unanime quand même, qu'il fallait porter un petit point de vue différent. Donc, mais il a fallu attendre 22h30.
Est-ce que ce moment ni droite ni gauche et pas un moment où ce qu'on a appelé la pensée unique se montre comme elle est, c'est-à-dire en parfaite symbiose avec un programme politique?
Ce que les Français attendent, c'est des réformes. C'est les réformes nécessaires, les réformes structurelles, les réformes que les autres pays ont fait. C'est le discours hein, qu'on entend beaucoup, beaucoup. Et, voilà. Et là, encore une fois, en s'appropriant les Français, en disant ce qu'attendent les Français, ce sont des réformes, les fameuses réformes. On ne dit même pas lesquelles, il n'y a pas besoin. On dit juste qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont structurelles et que les autres les ont fait. Il n'y a pas besoin de dire lesquelles c'est. Hein. Ouais. Mais on peut quand même penser que l'idée, c'est quand même d'assouplir très largement le code du travail.
le code du travail qui va être allégé. Et ça, c'est par la grâce des communicants et des communicateurs, que sont les journalistes. Voilà qu'une opération qui a été parfaitement bien menée. Reste à savoir si cette semaine d'euphorie collective dans les médias de masse va durer encore longtemps. Et quand est-ce que le réveil va être dur?
Ouais, je ne sais pas. C'est effectivement l'état de grâce, il est vraiment dans les médias. Je ne vois pas les gens autour de moi spécialement touchés par la grâce, mais par contre sur les plateaux télé, oui. Et je pense que ils vont se réveiller assez vite demain parce qu'ils vont être très contents dès qu'il y aura des petites histoires, des petites bisbilles à l'intérieur du nouveau pouvoir. Ils vont être très contents de les monter en épingle et de jouer à nouveau sur les rivalités de personnes. Mais il ne sera toujours pas question de politique, sûrement. Après, je ne les vois pas tellement changer d'avis sur le projet d'Emmanuel Macron.
Et il y a cette double dimension, le renouvellement de la façon de faire la politique, le renouvellement de la façon de conduire aux destinées du pays. Mais en même temps, il y a ce poids-là, toute cette tradition qu'il faut assumer.
Le style, c'est l'homme. Et là, son style, c'est vraiment un mariage entre tradition et modernité. C'est-à-dire qu'il est vraiment appuyé sur l'histoire de France et il veut en écrire une page avec les Français dans un style très allant. Donc c'est une belle promesse qui devra après s'incarner dans des décisions.
On entre dans une nouvelle ère qui va être une ère de gravité. Je peux me tromper, mais c'est ce qu'on a l'air de voir en tout cas en ce moment.
Un jour pour chaque information, ce dimanche est celui d'Emmanuel Macron. Demain, la politique reprendra peut-être ses droits.
Demain, la politique reprendra ses droits. C'est, en conclusion, Samuel Gontier, c'est ce qu'on peut se souhaiter à nous en tant que citoyens et puis aussi en tant que téléspectateurs, puisque je rappelle, vous avez subi ces 8 heures de direct sur 3 chaînes en même temps, ce qui fait pas loin de 24 heures de direct pour la passation de pouvoir. Bref, toute cette succession de torrents de communication médiatique, de communication politique, de storytelling qu'on s'est pris en tant que citoyen, électeur.
Oui, mais j'espère que la politique va revenir. Effectivement, on peut quand même espérer qu'avec les législatives, il sera vraiment peut-être plus question de politique. Mais j'ai encore des doutes, hein, parce que pour l'instant, on parle toujours, c'est pareil, voilà, des rivalités de personnes, des compétitions entre personnes, mais on ne parle pas tellement de leur programme non plus pour l'instant.
Bon, bah, raison de plus pour aller s'y coller. Merci beaucoup. Bonne désintoxication. Vous allez faire un peu de sevrage là. Vous allez essayer de vous.
Oui, après les législatives, je vais me retirer de la vie politique un petit peu. Voilà, j'ai besoin de temps en temps d'un petit peu de sevrage.
Bonne chance alors.
Merci.
Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi.
C'est un projet punitif. Pour nos classes moyennes et nos classes populaires. Donc ne soyez pas rassurés. Ne soyez pas rassurés. L'assurance chômage, c'est fini. Et donc vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage. C'est un projet radical et il faut l'assumer. Je serai l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Mes chers compatriotes, vive le capital, vive le capital, vive la France.
Bon alors Guy, toi tu penches plutôt pour Jeanne d'Arc, Napoléon, Jésus ou Kennedy?
Je sais pas, mais n'empêche, malgré tous ces torrents de commentateurs louangeurs, le premier sondage qui sort de la cote de confiance de Macron est nettement moins forte que celle de ses prédécesseurs en début de mandat, 45%, pas plus.
Et c'est justement pourquoi Antoine Chao, lui, est allé à la rencontre de ceux qui sont déjà dans la rue plutôt que sur un petit nuage.
Et non, tout le monde n'est pas sur un petit nuage comme Pierre Gattaz. Et on va, sous forme d'un cahier de doléances non exhaustif, revenir sur quelques-unes des luttes sociales que l'on a pu documenter au fil de l'année pour voir comment leurs acteurs ont vécu cette intronisation macromaniaque. On ira du côté du Front Social et sa première manif du quinquennat, à Amiens, voir les Whirlpool, retrouver le collectif Nos droits contre leurs privilèges qui occupe en ce moment même la place Stalingrad à Paris et d'autres surprises du jour, notamment avec Attaque. Mais tout d'abord, on revient sur la lutte des écoplats, les salariés d'une usine de fabrication de barquettes en aluminium qu'un certain ministre de l'économie avait négligemment laissé sombrer et disparaître.
Venez nous voir, monsieur Macron, pour nos réponses. Pour les réponses que les salariés d'écoplats attendent depuis 2 ans. Vous aviez les moyens de changer la décision. Vous l'avez pas fait.
Alors voilà les barquettes, les tartelettes, les cakes. Alors c'est quoi le Saint-Amour?
C'est ça le Saint-Amour.
Celui-là c'est un peu un gâteau aux fleurs, et quand on le coupe en 4, ça fait un cœur.
Donc c'est un peu, c'est un peu notre chouchou, quoi. C'est... Et puis c'est ce client, c'est le dernier où on a travaillé pour lui, quoi. Là, il y a eu une seule machine qui tournait à la fin, c'était pour lui. C'est aussi ça, c'est qu'on a, on avait des commandes, quoi. Le problème, c'est qu'on a des commandes, mais on n'a pas la matière première.
On appuie sur le bouton et on redémarre les presses. Et l'usine redémarre. Elle revient, en fait.
Il y a quelques mois, Ecoplat était encore le leader français de la fabrication de barquettes en aluminium.
Cette usine était la seule en France à en produire.
Tous les espoirs se sont envolés pour les salariés d'Ecoplat à Saint-Vincent-de-Mercuse.
L'État peut faire des choses. Mais en France, vous avez aussi une liberté d'entreprendre et un droit de propriété. Et vous avez parfois des actionnaires cyniques et qu'on ne peut pas bloquer. Mais commencer à changer la politique, c'est arrêter d'avoir un comportement maternant et de mentir aux gens.
C'est pas l'emploi, c'est pour l'emploi.
Il a pas fait son boulot. Ministère des Finances, hein, des Finances, c'est ça. Hein.
Mais il n'a rien fait.
Vous écoutez France Inter.
L'entretien aura duré 1h60. C'était bien le minimum pour Christophe Chevalier, délégué CGT, qui attend des explications depuis des mois.
Il a fait crever l'entreprise, c'est de sa faute. Des courriers, il en a eu 30 sur son bureau. Il n'a jamais répondu, donc il a fait crever cette entreprise parce qu'il ne s'est pas intéressé. Si il serait intéressé, on aurait pu sauver l'entreprise déjà bien avant. Il ne l'a pas fait. Il faut qu'on s'explique à un moment donné.
Emmanuel Macron, qui aurait reconnu aujourd'hui son erreur de n'avoir pas suffisamment bougé sur ce dossier.
Il le reconnaît.
S'il y a eu une erreur de fait, c'est la mienne.
Mais c'est pas tout de le reconnaître, donc ça veut dire qu'il faut continuer à l'interpeller.
Je n'ai qu'à m'en excuser face à vous.
Allô ?
Alors Christophe Chevalier, Emmanuel Macron à l'Élysée, ça vous fait quoi à vous, en tant qu'ancien d'Ecoplat ?
Il laisse quand même 77 familles à la rue, il laisse quand même un projet de reprise d'entreprise, un savoir-faire français depuis 60 ans, partir en Italie. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a plus un outil, il y a des presses qui sont parties, il y a des empileurs qui sont partis, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour un président, mais bon, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un boulot. Je suis dans un contrat précaire, mais bon, j'ai pu retrouver un boulot. Mais il y en a plein d'autres qui sont sur le carreau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment peur, quoi, parce que c'est Ecoplat, c'est Whirlpool, c'est dans la Creuse aussi en ce moment. Donc voilà, il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Ça me fait vraiment peur, vraiment, pour la suite, pour le chômage, tout ça, le pouvoir d'achat. Pendant notre combat avec Ecoplat, il y avait aussi un combat avec la loi travail. Voilà, j'ai peur que ça, on remette ça bientôt, prochainement, au mois de juillet ou au mois d'août. Hein.
Lundi 8 mai 2017, quelques heures après l'élection d'Emmanuel Macron, le troisième tour social a commencé.
Merci à tous les syndicalistes, militants, citoyens qui ont décidé de ne pas baisser la tête dès le premier jour de mandature de ce soi-disant nouveau président qui nous promet une politique antisociale. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'être dans la rue. C'est symbolique, c'est important, c'est inédit parce qu'on considère que ce qui nous attend, c'est assez grave pour le droit du travail et pour un certain nombre de mesures qui vont être prises. Je n'en cite qu'en quelques-unes puisque beaucoup ne connaissent pas le programme de M. Macron. On va le rappeler, une loi travail numéro 2 qui va voir le jour dans les prochaines semaines avec un gouvernement dont l'objectif va être de nous expliquer qu'encore une fois, il n'y a que ces mesures qui permettraient de créer des emplois mais qui en fait vont être une amputation de nos droits. Aujourd'hui, nous, on est d'emblée en résistance, on est d'emblée dans la constitution d'un front social, c'est le nom qu'on lui a donné, qui est une coordination et qui permettra en tout cas, à travers tous ceux qui veulent y participer, de lutter contre sa politique. On considère que l'attente des ordonnances n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a besoin de mobiliser, il y a besoin d'organiser des grèves, des luttes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la caisse de grève qu'Infocom CGT avait initiée il y a un an pendant la loi de travail, on a décidé de la réactiver dès aujourd'hui pour pouvoir soutenir les luttes, où qu'elles soient, et quelles qu'elles soient, en tout cas dans le but de se faire entendre. Merci à vous.
Juste avant d'aller manifester, deux mots de notre camarade Michael Wama, de la CGT Gougneur.
Ouais, juste deux mots, hein. Bon alors, est-ce que ça va ? Bon alors, voilà, la campagne électorale pour le président s'achève. Eh bien, la vote, elle démarre aujourd'hui.
Ouais !
La campagne de la rue, avec notre programme. Un programme qui n'a rien à voir avec celui qu'on nous présente depuis des décennies. Alors oui, la France n'a plus un président, mais un président directeur général. C'est un PDG que nous avons à la tête de notre pays. Le premier qui applaudit aujourd'hui, c'est Pierre Gattaz du MEDEF. Alors mes camarades, tous ensemble, prenons rendez-vous, allons chacun de notre côté, dans nos UD, dans nos UL, auprès de nos camarades, à côté chez nos voisins, pour leur dire que le Front Social, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, et qu'ensemble, nous allons réécrire les pages de l'histoire sociale de notre pays, non pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est eux ou nous, et nous avons décidé que cette fois-ci, ce sera nous, et on ira au bout.
Allô ? Gaël Quirante, Sud PTT, vous étiez le 8 mai sur cette première manif du quinquennat. Les prochains rendez-vous du Front Social ?
Eh ben, les prochains rendez-vous du Front Social, c'est d'abord une rencontre nationale le samedi 10 juin, puisque un peu partout, eh bien, on a retrouvé ce besoin de pas laisser de répit au gouvernement Macron. Et là, maintenant, c'est aussi le 19 juin, c'est-à-dire dès le lendemain des élections législatives, devant l'Assemblée nationale, d'exprimer haut et fort le fait que le gouvernement, il a une feuille de route très claire qui est celle de s'attaquer aux intérêts du monde du travail et de la jeunesse, et qu'en face, il y a des syndicalistes de tout horizon, des jeunes, des chômeurs, des associations contre les violences policières qui seront capables de résister, de se battre et de dire à Macron que, en tous les cas, on ne laissera pas faire, on ne laissera pas faire et on n'attendra pas la rentrée. Il veut mettre en place ses attaques par ordonnance. Et dès le 19 juin, on sera, on espère le plus nombreux possible, à 18h devant l'Assemblée nationale, à lui exprimer notre réponse.
Banquier à l'Élysée !
Le peuple à l'Assemblée !
Banquier à l'Élysée !
Le peuple à l'Assemblée !
Ils ont l'argent !
On a les gens !
Ils ont l'argent !
On a les gens !
Picardie debout !
Pour l'Armée !
S'il vous plaît, une haie d'honneur pour les Whirlpool et pour Automative ! Avancez, avancez !
Jusqu'au bout, on montrera qu'on est là ? Et qu'on se laissera
indemnise correctement. On a quand même tous entre 20 et 35 ans de boîte. On va pas partir avec 20 000. Ça fout de la gueule à kilo.
Même si ça fait pas tout l'argent,
au moins ça va nous dépanner pendant un moment.
C'est la fin de longues journées de blocage. Les syndicats de Whirlpool ont fini par signer un accord hier soir avec la direction. En 3 jours de négociations, ils ont réussi à faire grimper les indemnités de licenciement. Une petite victoire sans réconfort, l'usine fermera quand même en 2018.
Ils en ont de l'argent, ils veulent partir, qu'ils crochent.
Combien d'années de boîte, vous, alors ?
25.
25 années, ouais.
Bah, c'est compliqué, hein. C'est vrai qu'on est tous un peu, on a tous un peu les nerfs à fleur de peau, on dort mal, on mange mal. Au 1er juin 2018, il n'y aura plus rien. Plus de production, sèche-linge Whirlpool, ce sera fini.
Non. Ça fait beaucoup sur Amiens quand même, toutes ces boîtes qui ferment là. Ouais.
Toutes ces boîtes, oui, parce que bon, on parle de Whirlpool aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu Siège de France à Bertecourt, il y a eu Pirelli à Salouel près d'Amiens. À Amiens même, là, il y a nous, il y a aussi une petite usine qui est automotive. Aujourd'hui, ils sont 57 employés, qui va fermer aussi là début juillet. Et puis je pense qu'après, il y en aura d'autres. Là, chez Dunlop, ils parlent de 75 départs volontaires. Quand ça commence comme ça, c'est pas toujours bon signe. On sait plus, en fin de compte, on sait plus à qui faire confiance. Je crois qu'on en est tous là aujourd'hui. Je sais pas qui pourrait changer le monde à part une bonne révolution, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Nos parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour des valeurs et aujourd'hui, on est en train de tout perdre, tout simplement.
Picardie debout !
On a remonté le film !
Ils ont l'argent !
On a les gens !
Ils ont l'argent !
On a les gens !
Ils ont quoi ?
L'argent !
Et nous, on a quoi ?
Les gens !
Premier étage, il y a une grande salle avec...
Premier étage !
Alors, voilà, donc c'est une occupation de la Chambre de commerce de Paris.
Nous sommes là dans le cadre de la convergence des luttes non-droits contre leurs privilèges. Nous faisons une action avec toutes les organisations, c'est-à-dire Solidaire, le MNCP, le DAL, ATTAC, FSU, la PEI, SAC, beaucoup d'associations et des familles qui ont besoin d'un logement. Donc elles sont également là pour dénoncer le fait qu'il y a des endroits publics vides avec des espaces grandioses et des gens qui dorment comme en face dans la rue. Ça, on ne peut pas le supporter, on ne peut pas l'accepter, nos droits contre leurs privilèges.
Il y a aussi autre chose, c'est que ici on ouvre aujourd'hui parce que c'est aussi notre QG de campagne pour le mouvement social. On espère y rester un bon bout de temps, pas seulement pour les présidentielles, mais aussi pour les législatives, parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être ensemble, surtout avec ce qui nous attend. Voilà.
Nos droits contre leurs privilèges. Il y a une grande banderole qui va être tendue dehors, hein. C'est ça, ouais.
Pardon, ouais. C'est la banderole qui va être tendue dehors. Nos droits contre leurs privilèges. C'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas et qui ne sera pas abordé dans la campagne électorale.
Donc, rappel ici, on est là tous ensemble, divers mouvements sociaux, propos de mouvements sociaux, des syndicats, des
associations. Les occupants ont finalement été évacués par la police hier en fin de soirée. Ils annoncent une prochaine action le 22 avril, place de la République.
Faire entendre nos revendications, nos résistances, nos alternatives et le faire en convergence.
Et pour nos droits contre leurs privilèges, on y va !
Annick Coupé, nos droits contre leurs privilèges, ça continue après l'élection triomphale d'Emmanuel Macron ?
Triomphale, je sais pas, on verra dans les semaines et les mois qui viennent si elle est si triomphale. Mais oui, bien sûr, nos droits contre leurs privilèges, cet espace commun continue, parce que on avait bien dit que c'était à la fois pour la période électorale, et les élections sont pas finies, il y a les législatives, mais surtout c'était l'idée de construire un espace commun de convergence dans la durée, parce que nous pensions, et nous pensons encore plus aujourd'hui, que les résistances et les alternatives, il va falloir les construire et les imposer. D'où notre initiative ce samedi 20 mai à Paris, place de Stalingrad, qui s'appelle « La place est à nous, 1826 jours de résistance et d'alternative ». 1826 jours, c'est la durée du quinquennat. Donc nous voulons effectivement nous situer dans une perspective de résistance dans la durée, avec l'idée de construire les convergences entre une diversité de mouvements sociaux qui ont besoin d'être ensemble, de se rassembler pour être plus forts et pour construire les rapports de force qui vont, à mon avis, être indispensables.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Quand on arrive au travail, on est content, zaï zaï zaï. Mais hélas, en fin de journée, quel dommage, il faut rentrer.
Oh, ça oui. Heureusement, y a un ministre qui a su nous rendre moins tristes en nous permettant de rester jusqu'à l'aube du jour d'après.
Laï, 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 yeah. Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler la nuit, ça évite les insomnies. Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Bosser chaque jour 24 heures, ça nous permet d'être à l'heure.
Avant le dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se faire chier dans des musées.
Ah, ça oui.
Mais depuis Castorama est ouvert, ils sont en joie. Et au lieu de voir Caravage, ils vont acheter du carrelage.
Laï, 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 yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler le dimanche
quand il y a du pain sur la planche. Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Et comme a dit le roi de France,
mon ennemi c'est les vacances.
Avant tous on avait peur d'être augmenté, quelle horreur. Y'a rien de moins motivant que de gagner plus d'argent.
Ah, ah, ah ça oui.
Fort heureusement aujourd'hui, grâce à la loi El Khomri, nos salaires seront en baisse, sauf pour Carlos Tavares.
Laï, 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 yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir d'être compétitif.
Si vous saviez comme on kiffe. Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Mais ne serait-il pas plus sage
de rétablir l'esclavage.
De l'argent, il y en a dans les caisses du macronat.
La boutique Vuitton, place Saint-Germain-des-Prés à Paris dans le 6e.
Il y en a dans les caisses du macronat.
Voilà, c'est super. On va s'avancer par là.
Alors, il y a le nouveau sac à main Fragonard qui m'a l'air quand même du dernier chic. Hein. Le sac à dos Rubens. C'est la collection en collaboration avec Jeff Koons en ce moment, en vitrine. Et il y a donc une action d'attaque aujourd'hui même, samedi matin, ce matin.
Donc une banderole.
Les cadeaux fiscaux, ouais.
Qui se déroule devant la boutique de luxe. Louis Vuitton, il y a beaucoup de militants, d'attaques, du DAL aussi, droit au logement. Avec papa Emmanuel, pour les riches, c'est déjà Noël. Voilà, la grande banderole déroulée par attaque et qui va être installée sur cette belle boutique Vuitton, à côté du bar Les Deux Magots.
On sent la start-up, on sent les dividendes, on sent les actions.
Et voilà, des logements sociaux, pas des cadeaux fiscaux.
Aurélie Troué, vous êtes porte-parole d'attaque. Emmanuel Macron à l'Élysée, ça laisse augurer quoi pour vous ? Plus d'évasion fiscale ou plus de partage des richesses ?
Certainement pas plus de partage des richesses. En tout cas, les propositions d'Emmanuel Macron, ce qu'on en connaît, sont extrêmement floues, très faibles sur l'évasion fiscale. Et ça permettra certainement pas de récupérer les 80 milliards d'euros par an qui sont volés par les multinationales et les très riches qui cachent leurs avoirs et leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Et en fait, il n'a pas de proposition non plus pour récupérer l'argent qui est concentré dans quelques mains de très riches et multinationales. Par exemple, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de taxe sur les transactions financières réelles, ce qui permettra en France, là encore, de récupérer 40 milliards d'euros par an. Et même au contraire, il annonce des gros cadeaux pour les plus riches et les grandes entreprises. Par exemple, pas d'impôt sur la fortune pour les actionnaires, plafonnement à 30% de l'imposition sur les revenus du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés. Bref, c'est au contraire certainement une montée des inégalités de richesse qui est prévue. Et puis alors tout ça surtout va avoir un coût, parce que c'est une très forte baisse des recettes publiques, ces cadeaux fiscaux aux plus riches, aux multinationales. Et comme il veut aussi respecter absolument les règles budgétaires de l'Europe, ça va être une très forte baisse des dépenses publiques. D'ailleurs, il a annoncé moins 60 milliards par an de dépenses publiques, 120 000 postes de fonctionnaires supprimés, des baisses de dépenses dans des services publics qui sont déjà à l'agonie, comme les hôpitaux. Et du coup, ça ne permettra certainement pas de répondre aux urgences sociales, ni d'engager la transition écologique réellement, parce qu'il faut des investissements publics pour faire ça. Et pourtant, ça pourrait permettre de créer des centaines de milliers d'emplois. Donc vous voyez, on est là avec une politique très très inquiétante. Alors de toute façon, il est très clair dans ses annonces, faut se faire aucune illusion. Et la seule chose qui comptera, c'est certainement le rapport de force avec des mouvements sociaux importants, des mouvements de rue, qui pourront infléchir cette politique de gouvernement, parce qu'il faut se faire aucune illusion, quoi. Nous, on va continuer, en tout cas, en ce qui concerne l'attaque, et puis dans nos droits, leurs privilèges, avec plein d'organisations syndicales associatives, on va continuer de dénoncer tout ça avec humour, mais détermination, avec des actions, notamment face aux multinationales, qui continuent à nous confisquer l'argent dont on a besoin. Et voilà, on va le faire de manière symbolique dans des actions de désobéissance civique. Et on espère qu'on sera rejoint par de plus en plus de monde.
C'était Comme un bruit qui court, petit agenda des luttes.
Beaucoup de choses à faire, oui, si ça vous démange. En ce moment, le rassemblement Nos droits contre vos privilèges, place Stalingrad, où a convergé aussi la marche contre Monsanto et Bayer, le petit salon du livre politique au lieu dit, rue Sorbier dans le 20e, le rendez-vous incontournable parisien de ceux qui se mobilisent. Aujourd'hui et demain, le rassemblement des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, c'est à Thorens et sur le plateau des Glières, en Haute-Savoie. Demain, le rassemblement manif contre le méga-projet Europa City à Gonesse, avec rendez-vous sur le triangle de Gonesse dès 10h, avec une grande délégation de Notre-Dame-des-Landes qui sera là pour sauver les terres agricoles près de Paris aussi. Et pour les Bretons, la semaine prochaine, le super festival Couleurs du Monde à Langonnette.
Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Vous y retrouverez donc l'agenda des luttes à venir, ainsi que les références du livre et du blog de Samuel Gontier, Ma vie au poste. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.